Bonjour à tous, Marie-France Guimaroche est heureuse de vous retrouver, chers auditeurs. Je suis aujourd'hui, une fois de plus, dans les studios de Radio Grand Ciel, derrière mon petit micro rouge, avec Pierre Écart qui assure la technique et qui réalisera cette émission. Je reçois aujourd'hui encore M. Alain Fillon, qui est maire de Luret, le Luat-Clairet, tout près de notre bonne ville de Dreux. Et bonjour Alain.
Bonjour Marie-France.
Merci de m'avoir rejointe. Tu es un fidèle parmi les fidèles de cette émission.
Oui, parce que c'est un endroit où j'aime bien me retrouver.
Alors Alain, je parlais avec quelques collègues et amis de ta venue. On me dit, oh là là, t'as de la chance, Alain Fillon est professeur, alors il va, le micro à peine ouvert, il est extraordinaire, professeur d'histoire, de géographie. J'ai dit, ah bon, je ne savais pas du tout, mais je savais que tu avais été professeur. Et professeur de quoi finalement?
En fait, professeur d'une, j'ai enseigné une discipline qui est assez rare, c'est l'analyse médicale, qui n'est pas rare dans notre vie de tous les jours, mais rare dans le cadre de l'enseignement, puisqu'il y a très peu d'enseignants formés à cela et très peu d'établissements qui préparent des techniciens supérieurs en analyse médicale.
Mais les laboratoires d'analyse, en fait.
Tout à fait, les laboratoires d'analyse. Je retrouve aujourd'hui dans certains laboratoires d'anciennes étudiantes, d'anciens élèves. Et puis, j'ai été aussi, pendant quelques décennies, chargé de cours à l'école d'infirmières. Et où là, je retrouve là aussi dans les établissements d'anciennes élèves. Ça, c'est toujours quelque chose que j'ai apprécié, ces cours, notamment ce qu'on appelait autrefois l'école d'infirmières. Maintenant, on appelle ça les instituts de formation de soins infirmiers.
Il y a beaucoup d'infirmiers, en fait.
Tout à fait. Et l'IFSI de Dreux, l'Institut de Dreux, est un institut, je peux le dire, non pas parce que j'y ai enseigné, j'y enseigne plus depuis quelques années, ça n'empêche pas qu'elle conserve sa notoriété. C'est un institut qui a vraiment ses lettres de noblesse et qui a pignon sur rue et qui est réputé au niveau de toute la France.
Il y a beaucoup d'élèves qui se forment ici.
À l'époque, aujourd'hui, je ne sais pas. Il y a une dizaine d'années, moi, j'avais des classes, des amphis de 70 élèves, des promotions de 70 élèves.
Ah oui.
Oui, oui. Non, c'est un endroit très formateur et les équipes étaient très intéressantes avec des stages en milieu hospitalier, donc sur notre centre hospitalier, qui est aussi un centre hospitalier avec ses difficultés, avec tout ce qu'il peut y avoir aujourd'hui. D'ailleurs, dans le cas du monde hospitalier en général, des difficultés, mais en tout cas qui est de très bon niveau.
Oui, j'ai vu dans les journaux que, en fait, pour parler crûment, l'hôpital de Dreux serait menacé.
Oui, c'est peut-être dans le cadre de la réorganisation aujourd'hui, de ce qu'on appelle le GHT, c'est-à-dire la répartition au niveau des territoires pour des hôpitaux proches, de répartition équilibrée de compétences. C'est-à-dire aujourd'hui, la question qui est posée, est-ce qu'il doit y avoir à Chartres un grand centre de cardiologie et qu'on en ait un en même temps à Dreux? Est-ce que ce serait un problème que pour la cardiologie, tous les habitants d'un secteur se déplacent sur Chartres, alors que pour... Je prends un autre exemple de pneumologie, d'urologie, de ce que l'on voudra, de radiologie, on puisse plutôt venir sur Dreux.
J'ai parlé avec une infirmière que je vois assez souvent et qui me disait qu'en fait, le problème, à son sens, et celui des syndicats qui étaient concernés par la chose, c'était qu'il y avait actuellement un quart des lits qui était fermé à l'hôpital de Dreux et donc un manque crucial de place pour les nouveaux arrivants. Ça demande dans les services de jongler un peu avec les admissions et sorties et de mémoire, je crois qu'au mois de février, il y avait 96 lits de fermés sur 400 et quelques de potentialité dans l'hôpital même.
C'est possible. Je ne connais pas suffisamment la gestion hospitalière. C'est quelque chose qui existait à une époque, mais qui avait lieu plutôt pendant la période estivale. Donc là, si tu dis que c'était effectivement en février...
Mais c'est peut-être aussi du fait du manque de personnel.
Il y a
donc...
peut-être...
Manque d'infirmières, d'aides-soignants, de personnel médical
Là, je ne sais pas, au point de vue organisation, une chose est certaine, c'est que néanmoins, quand des lits sont fermés, c'est autant de recettes en moins. Et même si, effectivement, en termes de santé, on ne doit pas cristalliser uniquement sur des équilibres financiers, néanmoins, une fois qu'on a dit cela, évidemment, la santé des gens passe avant tout, mais une fois qu'on a dit ça, les équilibres financiers sont aussi nécessaires.
Et c'est évidemment un problème même sur les urgences. J'ai un ami qui est chef des urgences de Paris 2, de la clinique de Paris 2, et qui m'a fait l'amitié de venir quelquefois faire des émissions ici. Il s'agit du docteur Ali Afje. Et son problème, ce qui est le problème de beaucoup d'urgences, sinon de tous, de toutes, il me disait qu'en fait, les gens qui étaient pris aux urgences méritaient simplement une simple consultation en ville. Oui. Et comme il y a une raréfaction des médecins et que nous sommes, dans notre département, paraît-il, en zone rouge médicale, manque de médecins criant, Ali me disait qu'en fait, voilà, ils avaient à gérer un nombre absolument invraisemblable d'urgences qui n'en sont pas. Et ils ne se voyaient pas les refuser, bien sûr. Voilà. Il me dit, même si c'est pour les rassurer, même si c'est pour faire un examen et leur dire, non, vous n'êtes pas en train de faire une crise cardiaque, il me dit, il faut tout gérer, il faut tout examiner très, très attentivement et surtout avoir beaucoup d'empathie vis-à-vis des malades.
Tout à fait. Cette situation compliquée au niveau des urgences, tu as raison, l'origine, c'est bien en amont, c'est le manque de médecins généralistes. Et c'est vrai, tu as raison aussi de rappeler que nous avons des déserts médicaux en France, la région centre. Quand on regarde la carte française avec les déserts médicaux, on part du nord, on a un couloir, et dans ce couloir, à hauteur du centre, on est vraiment dedans. Le centre, la région centre est un désert médical. Le département de Haute-Loire est à l'intérieur de ce désert médical le plus accentué. Et à l'intérieur du département d'Eure-et-Loire, notre région drouaise est aussi très, très, très déficitaire. C'est un sujet qui n'est pas facile. J'ai cru en comprendre qu'il y allait y avoir un projet en cours avec déjà quelques idées concernant la lutte contre ces déserts médicaux. Je pense que c'est quelque chose de vraiment difficile. Le fait d'augmenter simplement de manière le numerus clausus, à mon avis, ne va pas résoudre la difficulté. Il faut quand même reconnaître aujourd'hui que lorsqu'on forme 100 médecins généralistes, 85% de ces médecins n'exercent pas en libéral. Il n'y en a que 15%.
Ils veulent être salariés.
Tout à fait. Et dans ces 15%, il y a le phénomène géographique qui joue. Où on a plus de chances d'avoir un rendez-vous rapide si on est à Paris, si on est sur les bords de la Méditerranée, que si on est en Lozère ou même en Eure-et-Loire. On est d'accord là-dessus. Donc, moi, je ne porte pas de jugement si aujourd'hui les médecins veulent non plus cette même détermination pour exercer leur activité médicale. Je répète, je ne porte pas de jugement, mais c'est vrai qu'ils ont le droit aussi de vivre comme, j'allais dire, comme tout le monde, parce qu'autrefois, on a tous eu nos médecins, entre guillemets, de famille, qu'on appelait à 2h du matin et qui étaient là à 2h15 et qui rentrait se coucher à 3h et qu'on rappelait à 3h20 et qui repartait à l'autre bout de l'agglomération, etc. Donc aujourd'hui, moi je reconnais le droit aux médecins, à tous, et notamment aux médecins généralistes, de vivre un peu différemment, de ne pas vouloir travailler le mercredi parce qu'il y a les enfants, de se rapprocher plutôt des villes universitaires parce qu'on pense aussi aux études des enfants, etc. Donc voilà, tout ça, ça crée des déséquilibres.
Il y a quand même plusieurs problèmes, Alain, parce que mon médecin généraliste m'expliquait qu'il était complètement enfoui sous une paperasserie administrative absolument aberrante, des tâches qui se multiplient à l'extrême. La sécurité sociale est très, très coupable de ça et leur mettre une pression qui est absolument intolérable. Il y avait autre chose pour lui. Heureusement, il a fait ses études médicales à Tours et il peut aller à Tours pour tâcher de trouver des stagiaires pour ramener ici, sur la région drouaise. Le malheur, c'est que quand on leur parle de Dreux, ils se sauvent.
Oui. Oh, je pense pas qu'il n'y ait que Dreux, Marie-France. Je pense que s'il n'y avait que Dreux, on dirait bah, effectivement, il y a un désert médical en France.
Non, mais je parle
c'est
des villages alentours.
Ah oui, d'accord. Mais sinon, non, je pense que beaucoup de régions sont touchées sur notre hexagone. Mais voilà.
Alors Gérard Hamel me disait que, à son sens, les maisons médicales qu'on multipliait, c'était très bien, et avec quelquefois des subsides même de l'Europe, d'après ce que j'ai compris,
oui,
qui sont quand même très importants. Mais même avec des médecins étrangers, bien sûr, il faut bien en trouver quelque part. Hein. Mais le problème, c'est que justement, c'est pas le tout d'avoir une très belle maison médicale, encore faut-il trouver des médecins pour mettre dedans.
Tu as tout à fait raison, on citera pas de nom et d'endroit. Il y a aujourd'hui des maisons médicales qui ont été construites et qui attendent que des médecins rentrent. Or là, c'est quand même les deniers publics qui ont été avancés pour pouvoir arriver à ces constructions.
Alors, Marleix, par contre, le député d'Eure-et-Loire, m'a dit qu'il avait fait avancer un petit peu les choses. Maintenant, les médecins qui ont fait leurs études, bien sûr, qui ont terminé leurs études et qui n'ont pas passé leur thèse, qui n'ont pas, je ne sais pas quel est le terme, qui ne sont pas thésards, ont le droit de s'installer. Alors ça va peut-être nous arranger les choses.
Oui, avec probablement quelques restrictions. Il doit y avoir quelques restrictions d'intervention. Mais ceci étant, oui, pourquoi pas. Et puis aussi pour un certain nombre d'actes. Hein, je pense. Moi, je vais même beaucoup plus loin. Je vais même plus loin. Puisqu'on tu abordais tout à l'heure le problème des urgences qui sont saturées. Hein. Il suffit d'aller à celles qui sont pas loin de nous, c'est-à-dire celles
du
centre hospitalier
Victor
Jousselin. Je crois qu'il faut qu'il y ait aussi une orientation qui soit faite, qui pourrait être faite. Alors, il ne faut pas tomber non plus dans la démesure. Il ne faut pas que tout se fasse par téléphone ou par ordinateur. Je n'y crois pas non plus parce que, comme tu le disais justement, il y a des gens pour qui le médecin, c'est aussi la personne à qui l'on parle. Pour beaucoup d'ailleurs, et pour beaucoup. Moi, je pense que le médecin, c'est aussi un rôle primordial de pouvoir avoir, pour un patient, d'avoir quelqu'un à qui parler, à qui se confier. Mais ce que je pense, c'est que pour un certain nombre d'actes qui sont faits par les médecins, de vaccination ou de choses comme ça, d'autres personnes pourraient le faire. Ça déchargerait, ça déchargerait. Mais en tout cas, on vit une période, elle ne fait que débuter, qui va, à mon avis, montrer des bouleversements importants en termes de santé, de la pratique de la médecine ou de la partie délivrance de médicaments. Je ne sais pas si tu as entendu il y a quelque temps où des groupes, ou tout au moins un groupe de grandes surfaces, etc., commençaient à dire « Mais pourquoi ne vendrait-on pas des médicaments dans les grandes surfaces ?»
Oui.
J'ai pas d'opinion là-dessus, je sais pas, j'y ai pas réfléchi, j'ai pas assez de recul. Mais je veux dire que ça va bouleverser la profession pharmacie. Et tout ne sera pas forcément bien le fait que on n'ait plus quelqu'un en face de compétente qui a fait pas mal d'années d'études pour pouvoir vous dire je vous donne tel médicament pour parler un petit peu autour du médicament.
Bien sûr, Alain, mais d'un autre côté, les médicaments sont de moins en moins remboursés. Il y en a beaucoup qui sont exclus du remboursement, comme étant des médicaments de confort, pense au magnésium, enfin pas mal d'autres choses, et qui néanmoins font du bien. Chacun pense ce qu'il veut, mais bon, une petite pilule de magnésium le matin, ma foi, ne serait-ce qu'un effet placebo, après tout. Alors est-ce que justement, dans des supermarchés, ça ne serait pas concevable?
J'avoue que je n'ai pas de recul là-dessus, sur ce sujet-là.
Il faut y penser.
Mais en tout cas, c'est quelque chose que l'on aura, même nous, notre génération, on aura l'occasion de vivre, je l'espère.
Et puis aussi, une télévision chez toi, une caméra de télévision, où tu feras voir au médecin qui sera à l'autre bout de... J'ai mal ici, docteur. Ouais. Ah bon, alors
ça,
là,
ça, c'est un peu particulier, je ne sais pas. Pas de jugement.
Alors, un tout autre sujet maintenant, Alain, je voudrais que tu me parles. On a évoqué un tout petit peu cette chose dans une émission précédente, mais ton rapport avec la politique, la commune, les gens, dis-moi un peu.
J'ai été dans un autre temps, j'ai été un militant d'un parti politique, et avec le recul, on s'aperçoit, comme tout militant, on considère qu'on détient la vérité.
Tu peux le dire ?
Oh oui, 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 j'ai été militant au Parti Socialiste je l'ai été depuis 1971 et j'ai pris...
Tu avais ta carte du parti.
Tout à fait, tout à fait. J'ai pris ensuite quelques précautions, quelques distances, on va dire, sur des sujets précis. J'ai toujours défendu l'idée l'idée en tout cas... qu'en politique, on peut parler aux autres, même s'ils n'ont pas la même option politique.
Si on n'est pas d'accord dans un parti et qu'on fait partie de ce parti, oui. Tu penses qu'on a le droit de dire ce qu'on pense.
Tout à fait. C'est d'ailleurs pour cela que j'avais à l'époque adhéré au Parti Socialiste, parce qu'il y avait ce qu'on appelait des courants, qui ont d'ailleurs fait le malheur du Parti Socialiste, parce que ça a toujours été regarder le Parti Socialiste comme un parti en ébullition, où on se fâchait, on s'étripait, il y avait tout un tas de courants différents, etc.
Quel était le tien ?
Mais ça en faisait. Alors le mien, il a toujours été, moi j'ai toujours été, il n'était pas au Parti Socialiste, mais fidèle à un homme politique, je trouve que ça a été un des plus grands hommes politiques de notre pays, mais malheureusement, il n'a jamais exercé le pouvoir bien longtemps. C'est Pierre Mendès France.
Je me souviens de son verre de lait à l'école.
Oui, Pierre Mendès France. Pourquoi ? Parce que Pierre Mendès France, c'était avant tout, d'abord, pouvoir parler, et surtout le parler vrai, de dire la vérité aux gens. Je crois que pendant de nombreuses années, sous différents gouvernements, de droite, de gauche, on n'a pas toujours dit la vérité. On n'a pas toujours
dit... Est-ce qu'on l'a dit quelquefois ?
Probablement, oui, mais on ne l'a pas dit assez fort et on n'a pas agi en conséquence. On n'a pas voulu, parfois, on n'a pas voulu heurter, donc on n'a pas été jusqu'au bout des mesures.
Du miel que tu mettais quelquefois dans les discussions au conseil municipal, mais est-ce que ce n'était pas tout simplement une potion amère qu'on diluait avec du miel pour faire passer la chose ?
Non, moi je ne parlais pas du miel dans ce sens-là, je parlais simplement que lorsqu'il y a des heurts, lorsque parfois les gens s'opposent d'une manière un peu violente, le rôle c'est d'adoucir un peu, et justement de faire en sorte, avant de parler trop fort, qu'on écoute aussi l'autre. Ne pas systématiquement considérer qu'on détient la vérité. Ça a été mon cas quand j'ai été militant pendant de nombreuses années. J'y ai été jusqu'à depuis 4 ou 5 ans où j'ai pris quelques distances avec le Parti Socialiste parce que pas d'accord sur un certain nombre de sujets. Ce qui fait qu'aujourd'hui, d'ailleurs, je n'appartiens plus au Parti Socialiste. Je me suis plutôt rapproché de la tendance, sans y adhérer, bien sûr, de cette tendance aujourd'hui en marche où on considère qu'après tout, et on le voit bien concrètement, on voit bien qu'aujourd'hui, il y a des gens qui cohabitent, et d'une manière pas si mal que cela, avec les défauts, avec tout ce qu'on voudra, mais qui n'en a pas, mais qu'on a réussi à mettre autour de la même table des ministres, qu'on a réussi à mettre des gens aussi différents, peut-être, au départ, la preuve qu'ils n'y sont pas autant, mais au départ que Édouard Philippe ou que le maire de Lyon.
Tu considères qu'Édouard Philippe fait un bon Premier ministre ?
Tout à fait. Je considère que c'est un bon Premier ministre, même s'il est issu des rangs des Républicains. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que j'ai toujours prôné au sein du Parti Socialiste plutôt ce qu'on appelait l'aile un peu la moins à gauche, un peu plus droitière, etc.
Un peu plus centriste,
un petit peu plus centriste. Quand je dis droitière, c'est peut-être le mot, l'adjectif n'est peut-être pas l'adjectif approprié, mais en tout cas me retrouver en direction plutôt de Rocard, de me retrouver un peu plus tard en direction de Manuel Valls, etc., qui ont dit un certain nombre de vérités, mais qui n'ont pas été toujours au bout. Je prends un exemple. Enfin, je ne voudrais pas aborder un sujet purement de politique politicienne.
Mais c'est très intéressant,
en tout cas, de le faire d'une manière
aussi.
Très, très décontractée.
Bien sûr.
Et pour me positionner. Au jour d'aujourd'hui, on a un gouvernement et on a un président de la République qui ont mené jusqu'au bout, on en pense ce que l'on voudra, mais la réforme de la SNCF, c'est d'actualité. Je ne me positionne pas. C'est bien, c'est pas bien ce qu'ils ont fait, etc. En tout cas, ils ont été au bout. Ils ont mené une réforme dont le président de la République avait fait allusion durant sa campagne électorale.
Il s'est engagé à cette réforme.
Je dis ce que je vais faire, mais je fais ce que je dis. Cette réforme de la SNCF, dans les dîners, du vendredi soir ou du samedi soir entre amis. De bords différents, ça nous arrive. Tout le monde, la plupart des gens disaient, on ne peut pas vivre avec des statuts ou des situations d'il y a un demi-siècle. Mmh. Tout le monde était d'accord là-dessus.
Sauf la prime d'escarbille dans l'œil.
Oui, sauf que, voilà, sauf que le président de la République, avant celui qu'on a aujourd'hui, avant Emmanuel Macron, n'a pas voulu mener une telle réforme par idéologie. Celui d'avant n'a pas voulu mener cette réforme, mais simplement parce que la peur de la rue. La rue, on l'a bien vu, les gens ont manifesté, je leur reconnais ce droit de manifester, mais en tout cas, ça avait été annoncé, c'est présenté et c'est adopté. Après, le jugement viendra plus tard. Il viendra quand, si ce président de la République se représente à nouveau au suffrage du peuple français, les gens se positionneront par rapport peut-être à ce paramètre-là ou par rapport à d'autres paramètres. Donc ce que je veux dire,
mais
c'est...
cette loi qui vient de passer...
C'est le parler franc qui,
cette,
moi, me
paraît
important.
Cette loi qui vient de passer, si jamais le président de la République actuel n'est pas reconduit au bout de son mandat, est-ce qu'un autre peut tout défaire?
Alors, je ne pense pas. En tout cas, ça dépend quel est le type de la loi. Mais l'exemple que tu... L'idée que tu aimais là, on l'a vécu avec ce qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive, la loi de Martine Aubry sur les 35 heures. La loi sur les 35 heures, on nous avait, là aussi, je ne me positionne pas. Je dis simplement qu'elle a été décriée par certains qui ont eu un jour le pouvoir et de l'amender largement. Elle n'a pas été amendée. Elle n'a pas été modifiée. Donc, ce que je veux dire, c'est
alors,
que...
manque de concertation, manque de courage, manque
peut-être,
de...
Peut-être, manque de courage politique. Et puis, la peur aussi, la peur de voir le pays à feu, à sang, manifester, les rues, etc. On a eu des exemples dans l'histoire de notre pays sur un sujet, t'en faisais allusion tout à l'heure, à l'éducation. L'éducation a coûté le poste à un certain nombre de ministres de droite et de gauche, impensable.
À chaque fois, tout le monde était dans la rue avec les banderoles.
Que l'on parle de Savary, à une époque, mitterrandienne.
Savary, c'est fini.
Voilà, où 1 million de gens sont descendus dans la rue parce qu'on avait fait un blocage sur une opposition brutale et j'allais dire vraiment primaire sur école privée, école publique. Est-ce que les choses sont aussi simples que cela?
L'école du diable et du bon Dieu,
bon,
à l'école.
Voilà.
À l'époque.
Donc ça a coûté Savary. Ensuite, on a eu Devaquet. Ensuite, on a eu. Je veux dire que à un moment donné, je pense que les choses doivent
Luc Ferry
être.
Aussi a été. Et Bayrou a-t-il été?
Il a été ministre de l'éducation nationale, mais je ne sais pas comment il a quitté son poste. Je ne pense pas que ce soit sur des manifestations. Mais non, ce que je veux dire, c'est que l'important, c'est de pouvoir, sur des sujets de société, de modifications importantes, pouvoir a priori en débattre et ne pas arriver avec la science infuse et considérer que l'on sait tout. Mais là aussi, c'est encore le dialogue. C'est encore aussi le parler vrai et le parler franc. Et c'est des choses qui, moi, m'ont toujours animé dans mon action, entre guillemets, politique. Je dis bien politique, pas politicienne, parce que la politique est quelque chose de noble. La politique, voilà, chez les Romains, c'est la gestion de la cité. Il n'y a rien de plus noble que de participer à la gestion de la cité. Pas le fait d'avoir l'écharpe tricolore sainte autour du thorax.
Le bleu pour le maire,
oui.
C'est vers le cou ou en bas?
En haut.
En haut, vers le cou.
Le député, c'est l'inverse.
C'est le contraire.
Le parlementaire, c'est l'inverse. Voilà. Il ne faut pas considérer qu'il y a certains maires qui mettent leur écharpe à l'envers. C'est parce qu'ils sont parlementaires.
Est-ce que tu n'as pas le sentiment non plus que tous ces politiques qui ne vont pas au bout de ce qu'ils disent, parce que tu dis « je fais ce que je dis » et je... Non, le contraire.
Je dis ce que je fais,
mais ça s'arrête souvent là et on ne fait pas ce qu'on dit. Est-ce que ça n'est pas non plus une sorte de manque de confiance envers leurs administrés, parce qu'ils considèrent dans le fond qu'on ne peut pas comprendre?
Oui, ça, je suis pas sûr, parce que dès l'instant où les administrés, les habitants, les électeurs même, affichent une volonté de changement, on l'a eu, ces volontés de changement. Bien souvent, c'était le cas. Bon, souvenons-nous de l'arrivée de Mitterrand au pouvoir. C'était quoi? C'était des gens qui, après 23 ans de pouvoir, sur lequel, voilà, chacun pourra se positionner comme il le voudra, mais il y avait véritablement, il y a eu véritablement une envie de changement. Moi, je le il n'y a que deux moments que dans ma vie j'ai vécu comme cela. Alors, je pense qu'en 58, mais j'étais jeune, je pense qu'en 58, il y a eu cet effet-là. Mais j'étais beaucoup trop jeune pour pouvoir
l'appréhender.
Mais je crois que ça a été un moment important. Et serait-ce notamment, d'abord c'était l'après-guerre, mais de stabilité politique sortant d'une quatrième république un petit peu beaucoup confuse, je le dis clairement.
Le président du conseil sautait tous les huit jours. C'était fou.
Et donc, il y a eu cette volonté-là. Il y a eu le 1981, l'arrivée de Mitterrand au pouvoir, et je pense qu'il y a eu 2017 avec le président Macron. Les gens ont eu envie de changer. Ils sont déçus, j'en sais rien, aujourd'hui, ils le seront encore demain, ils n'y seront plus après-demain, etc., au gré des événements, parce que le positionnement est parfois assez versatile.
Mais on est champion du monde.
C'est ce que j'allais te dire. Est-ce qu'aujourd'hui, parce qu'on est champion du monde, on redore le blason? Je n'y crois pas trop parce que c'est en général éphémère.
En tout cas, la joie était générale, c'est déjà ça.
En 2017, on a tous entendu, les politiques, c'est tous des gens véreux, c'est tous des profiteurs. Ils gagnent beaucoup d'argent à ne pas faire grand-chose. Alors on disait, oui, mais ça, c'est pour les parlementaires, c'est pas pour les maires, et qui plus est des maires des petites communes. Je n'en suis pas certain. Et puis c'est pas normal qu'un maire, je le dis tout à fait à l'aise, il fasse 5-6 mandats. C'est pas normal qu'on ait encore des élus à 85 ans. Il faut que ça change.
Oui, mais enfin,
là, le changement, on l'a eu.
Il y a quand même quelque chose qui me gêne là-dedans, c'est que, en fait, vos mandats, tu es le maire, tu es maire depuis 34 ans, tu disais, mais tu as été élu. Si les gens ne voulaient pas de toi, ils ne t'éliraient pas.
Oui, tout à fait. Non, mais là-dessus, je...
Et même quelqu'un de 85 ans, s'il donne satisfaction à ses administrés...
Je suis d'accord, mais Marie-France, on a bien vécu là, dans le cadre de l'élection présidentielle, et surtout dans le cadre des élections législatives qui ont suivi, ça a été... Alors, je sais bien qu'en général, les Français ont toujours donné une majorité au président de la République qu'ils ont élu un mois ou deux
avant.
Ça
paraît assez logique.
En général, c'est logique pour la mise en place du programme. Mais néanmoins, on a vu quand même dans divers bords politiques différents, de partis politiques différents, on va dire des têtes qui étaient là depuis un certain nombre d'années, qui ont certainement donné satisfaction, mais qui là, au nom d'autres paramètres, du paramètre du changement de la jeunesse, etc., ont laissé leur place, ont été obligés de laisser leur place à des gens qui étaient inconnus au bataillon quelques semaines avant. Donc il y a quand même cette volonté de rajeunir la classe politique. Moi,
je crois
que c'est...
Il l'a féminisé aussi, d'ailleurs. Il l'a féminisé, et
on le disait dans une précédente émission, je crois que c'est très bien. La parité, moi, je la vis aujourd'hui dans mon conseil municipal depuis 2014, et je le dis clairement, ça a apporté... On avait toujours eu des femmes dans le conseil municipal, mais toujours minoritaires. Ça n'a jamais dépassé le rapport un tiers de femmes pour deux tiers d'hommes. Aujourd'hui, on est moitié-moitié. Et je dis que ça a apporté beaucoup. On parlait dans une précédente émission de l'espace clairé. Je dis que si aujourd'hui l'espace clairé a été construit dans ces conditions-là, avec une certaine orientation culturelle, etc., et aussi probablement un petit peu plus cher que ce qu'on aurait pu arrêter comme montant à ne pas dépasser s'il n'y avait eu que la parole des hommes, tout simplement, je ne dis pas que les femmes ont été dépensières, mais elles ont, dans le montage du dossier... Elles ont orienté sur des logiques que nous, on n'appréhendait pas. Par exemple, quand on a parlé ménage, sur des revêtements de sol, sur un certain nombre de choses, où nous, on aurait réagi par rapport au coût le moins élevé, au ceci, au cela, et elles l'ont vu d'une autre manière.
Il y aura
des femmes, du personnel communal de Lurée, qui vont entretenir régulièrement cette salle, etc. Je prends cet exemple-là parce qu'il est frais dans ma mémoire, mais même depuis 2014, il y a eu une influence des femmes au sein de mon conseil municipal. Je le dis et je le répète régulièrement, je le dis clairement, c'est pas pour faire plaisir, c'est parce que c'est une réalité et c'est une réalité qui me plaît bien.
Vive Lurée, vive les femmes, vive le conseil municipal dans son entier et vive le maire. Alain, je te remercie beaucoup d'être venu et surtout d'avoir fait tout ce volet plus politique, qui m'a, pour ma part, passionnée, qui, je suis certaine, passionnera aussi nos auditeurs. À bientôt. Merci Alain d'être venu. On se retrouvera bientôt sur les ondes de votre radio favorite, Radio Grand Ciel. Au revoir.
Merci Marie-France, au revoir.